Dimanche dernier, on a eu une discussion communautaire le dimanche après-midi. Il y avait pas mal de monde, tout le monde n'était pas là, donc je vais vous dire un petit peu rapidement de quoi on avait parlé. On avait évoqué essentiellement la question du service mutuel. Mettez-vous au service les uns des autres, hein, comme nous le dit la parole de Dieu. On a évoqué aussi les besoins qui évoluent dans une communauté, savoir comment aussi aider chacun et chacune à trouver sa place au sein de l'Église. Parce que, eh bien, je le rappelle, tous les croyants sont appelés à se mettre au service de leurs frères et leurs sœurs en Christ. Chacun et chacune, avec nos compétences, avec nos possibilités aussi également, on sait qu'on n'a pas tous le même emploi du temps, bien sûr, mais ça concerne tous les croyants. En effet, si nous voulons être des disciples du Christ, il nous faut prendre exemple sur lui. Un disciple prend exemple sur son maître pour chercher à lui ressembler toujours un peu plus, afin de le rendre visible encore aujourd'hui. Alors heureusement pour nous, eh bien c'est l'Esprit de Dieu en nous qui réalise ce travail, on n'est pas tout seul à la tâche, c'est l'Esprit de Dieu qui nous façonne à la ressemblance du Christ. Mais le Saint-Esprit utilise nos efforts et nos engagements pour nous changer jour après jour. Il nous faut donc travailler avec le Saint-Esprit à ce qu'on appelle généralement notre maturité spirituelle, c'est-à-dire devenir toujours un peu plus semblable à Christ. Et un domaine notamment dans lequel le Christ nous a laissé un exemple extrêmement fort, c'est celui du service, le service mutuel, se mettre au service les uns des autres. Le service mutuel, nous dit la parole de Dieu, c'est le meilleur moyen de rendre visible le commandement d'amour mutuel que nous a donné le Christ. Aimez-vous les uns les autres. Et tout ça est parfaitement résumé dans ce simple verset de l'Épître aux Galates, au chapitre 5, les versets 13 à 14. Je ne sais plus si je l'ai mis. Non, je ne l'ai pas mis. « Par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, « Aime ton prochain comme toi-même ». Il nous faut donc travailler tous ensemble à développer un cœur de serviteur, un cœur de servante qui puisse montrer, qui puisse manifester, rendre visible notre amour mutuel à la ressemblance de ce que le Christ a fait pour nous en premier. On avait évoqué un peu tout ça dimanche dernier et on s'était aussi rendu compte que quand on veut passer à la pratique, ça devient plus compliqué. Me mettre au service de mes frères et sœurs, aider, rendre service, par amour, je veux bien, mais dans quel domaine? Quels sont les besoins? Où est-ce que je peux aider? Quelles sont mes compétences, mon appel de Dieu à le servir? On ne peut pas mettre n'importe qui à n'importe quel service, alors comment discerner? Ces questions ne sont pas si simples, hein, ça va pas de soi, alors du coup ce matin j'aimerais que nous puissions réfléchir à ces questions des besoins et du discernement dans le cadre du service mutuel. Et heureusement pour nous, rassurons-nous, rien de nouveau sous le soleil, il se trouve que ces questions se posaient déjà dès le début de l'histoire de l'Église. Alors, pour nourrir notre réflexion, comme ils avaient les mêmes soucis que nous, je vous invite à étudier ensemble un texte dans le livre des Actes, au chapitre 6, les versets 1 à 7. Le livre des Actes des Apôtres, donc qui nous raconte les débuts de l'histoire de l'Église après que le Christ soit mort, ressuscité pour nous et puis monté au ciel, rejoindre le Père. Eh bien, ce livre des Actes raconte ce qui s'est passé ensuite pour ses disciples. Et nous lisons au chapitre 6. À cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Palestine. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors, les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent « Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. » Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Cette proposition convint à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Ils les menèrent aux apôtres, qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait toujours plus, le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem, et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Alors ce texte est un récit. Je pense que ça se voit, hein, ce n'est pas un texte didactique, c'est-à-dire ce n'est pas un texte qui nous enseigne quoi faire ou comment le faire. C'est une histoire, c'est un exemple, mais qui peut nous éclairer, qui peut nous enseigner. Ça ne doit pas devenir la seule manière de faire, mais je pense pourtant que ce récit peut nous donner quelques jalons à suivre pour articuler les besoins et le discernement dans le cadre du service mutuel. Alors pour commencer à l'étude de ce récit, il faut remonter un tout petit peu en arrière dans le temps. Nous sommes donc à Jérusalem, peu de temps après la Pentecôte, l'Église en est à ses débuts, tout est nouveau, tout est à faire, à inventer. Il n'y avait pas d'exemple d'Église avant pour eux, hein. Ce sont les premiers. Et il se trouve qu'un des premiers besoins qui émergent au sein de cette communauté de croyants, c'est le besoin d'entraide matérielle. Il y avait des très riches, il y avait aussi des très pauvres. Certains ont beaucoup trop, d'autres pas assez. Alors les chrétiens de l'époque ont voulu partager leurs biens. Mais comment faire ça de manière équitable, équilibrée ? Bien, voici ce qui s'est passé. On remonte un petit peu, on était en acte 6, on remonte en acte 4, versets 34 et 35. « Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le fruit de la vente et le remettaient aux apôtres. » Ceux-ci le répartissaient alors entre tous, et chacun recevait ce dont il avait besoin. Tout naturellement, à l'époque, ce sont les responsables de cette communauté, les apôtres, qui centralisent la collecte et qui se chargent d'une distribution équitable. Comme quoi, le réflexe de se tourner en premier vers le pasteur n'est pas nouveau. Mais, comme on va le voir, à l'époque, comme aujourd'hui, ça a ses limites. Il y a un besoin à l'époque, la solidarité matérielle. Il y a des personnes remplies du Saint-Esprit, dignes de confiance, hein, les apôtres. Alors on leur confie un service collecté et distribué à tous équitablement. Et tout va pour le mieux pendant un certain temps dans cette petite communauté. Mais notre récit continue, et on l'a vu, ça se complique. Pourquoi ? Pourquoi ça se complique ? Il y avait un système en place, un système qui fonctionnait. Pourquoi tout à coup ça déraille ? Eh bien, notre texte nous a donné la réponse. On revient au chapitre 6 qu'on a étudié, au verset 1. À cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Palestine. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Voilà la raison. La communauté augmente, elle change. Elle évolue. Et fatalement, les besoins évoluent eux aussi. Dans la communauté naissante, les apôtres suffisaient peut-être à tout faire. Ils s'occupaient à la fois de l'enseignement, de la prière et de la répartition des biens. Mais lorsque la communauté augmente, les besoins dans tous ces domaines augmentent également. Il y a plus de personnes à enseigner, il y a plus de sujets de prière desquels il faut se préoccuper, et il y a plus de pauvres entre qui répartir le fruit des collectes. Tous les besoins sont multipliés, mais le nombre des apôtres, lui, ne grandit pas. Et je pense que, fatalement, eh bien, le service qu'il rendait parfaitement bien à une époque est devenu moins bien effectué. Certains se retrouvaient défavorisés, nous dit le texte, dans les distributions. La répartition se fait moins bien. Des tensions commencent à monter au sein de la communauté. Et c'est un premier point essentiel que nous rappelle ce texte, c'est qu'une communauté, une église, ce n'est pas fixe. Elle change, elle évolue, sa composition évolue, sa taille évolue également, et donc ses besoins évoluent. Si un service correspond à un besoin à un moment donné de la vie d'une communauté, très probablement quelques années après, ce service ne sera plus adapté. Il faudra le repenser, peut-être le modifier. Ou alors, comme dans notre texte, modifier l'équipe de ceux qui servent en fonction de l'évolution des besoins. Il faut donc constamment discerner. Et ce texte en est un bon exemple. Le service que rendaient les apôtres convenait au début, mais après un certain temps, leur service ne correspond plus, ne répond plus aux besoins. Et je pense qu'on ne peut pas accuser les apôtres de ne pas être assez remplis du Saint-Esprit. Simplement, eux n'y suffisaient pas. Si nous voulons discerner les besoins de notre communauté, ainsi que la place de chacun et chacune des disciples, ce n'est pas une fois tous les 10 ans ou 20 ans qu'il faut le faire. C'est en fait une réflexion constante, une remise en question permanente dans une église. Je suis passé par beaucoup d'églises qui se trouvent aujourd'hui en décalage. Soit en décalage avec les besoins réels de leur communauté, soit en décalage parfois avec les personnes qui composent leur communauté. Et je ne pense pas avoir vu une église qui le fasse par malveillance ou par mauvaise volonté ou par flemme, mais simplement parce que on continue paisiblement à faire comme on a toujours fait et avec les personnes avec lesquelles on a toujours fait. La communauté change, l'église locale change. Les disciples, eux aussi, changent. Et il faut pouvoir paisiblement discerner et s'adapter à tout cela. Dans notre récit, la communauté et donc les besoins ont évolué. Il faut à nouveau discerner, chercher ce qui ne va plus. Et voyons donc comment la communauté a réagi. Et nous relisons au verset 2. Alors les apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent: il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Cette proposition convint à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux en leur imposant les mains. Alors j'aimerais relever simplement 2 choses qui peuvent nous aider dans notre pratique du service mutuel. Tout d'abord, ce texte est un exemple de ce que nous pouvons appeler la soumission mutuelle. En effet, il n'y a pas d'autodétermination dans ce texte. Les 7 personnes choisies n'ont pas dit « c'est bon, vous inquiétez pas, c'est moi, j'y vais, je vais m'en charger ». Ici, il y a un véritable travail de réflexion, de discernement. Le texte ne le dit pas, mais on le comprend bien, de prière également. Ce n'est pas chacun qui choisit pour lui-même et qui fait ce dont il a envie. En revanche, il y a des personnes qui veulent participer au service mutuel. Je ne pense pas qu'on leur ait imposé, je pense qu'ils étaient très volontaires. Et il y a d'autres personnes qui vont discerner avec eux pour ensuite alors proposer d'essayer tel ou tel service. Dans le début de l'histoire de l'Église, le discernement, nous le voyons, était pratiqué avec sérieux, était pris très au sérieux. Et ensemble, eh bien, en communauté, aujourd'hui, presque 2000 ans plus tard, eh bien, nous voulons faire de même. Nous voulons appeler tous les croyants à participer au service mutuel, mais nous voulons surtout aider chacun et chacune à discerner, à trouver sa place. Deuxièmement, la deuxième chose que je voudrais retenir, c'est que nous voyons dans ce texte que pour pouvoir vivre ce discernement, il faut à la fois connaître les serviteurs et connaître les besoins. On a besoin des deux. Dans ce texte, le besoin, le service, ici la répartition de l'argent collecté, est connu, et bien ciblé de la part de toute l'Église. Et pour ce service, les apôtres savent qu'il faut des personnes intègres, dignes de confiance. C'est ce qu'ils disent. Normal, avec de l'argent, on comprend, ça peut devenir une tentation extrêmement forte. Il faut des personnes intègres, dignes de confiance. Mais il faut aussi beaucoup de sagesse pour répartir équitablement en fonction des besoins de chacun. Donc, nous connaissons ce dont nous avons besoin pour pouvoir effectuer ce service. Ils connaissent les besoins, mais ils connaissent également les serviteurs et les servantes. Et si les 7 disciples sont choisis dans ce texte, c'est qu'ils correspondaient à cela, intègres et remplis du Saint-Esprit pour avoir des dons de sagesse afin de redistribuer. Les autres savent qu'ils ont ces dons de sagesse et qu'ils sont dignes de confiance. Pour pouvoir discerner et pour pouvoir vivre le service mutuel, il faut connaître à la fois les besoins et les serviteurs et les servantes. Eh bien, c'est justement ce que nous voulons faire en ce début d'année dans notre communauté. Nous voulons vivre un discernement similaire, en connaissant mieux les besoins et en connaissant mieux les disciples. Notamment pendant notre week-end de rentrée d'église, qui aura lieu les 5 et 6 octobre prochains, nous aurons un temps de rencontre entre les responsables d'activité et tous ceux et celles qui veulent participer au service mutuel pour grandir ensemble à la ressemblance du Christ. Les responsables d'activité connaissent les besoins, mais ne connaissent peut-être pas assez les disciples. Les disciples, c'est-à-dire vous connaissez vous-même. On peut peut-être vous aider aussi à mieux vous connaître. Parfois, on a du mal à se connaître soi-même. Mais vous connaissez très certainement les capacités que Dieu vous a données, que vous mettez en œuvre jour après jour, peut-être sans vous en rendre compte. Vous connaissez vous-même, mais vous ne connaissez peut-être pas les besoins. Alors, il suffira de faire cette rencontre entre les responsables qui connaissent les besoins et les disciples qui se connaissent eux-mêmes. Il vous suffira d'aller voir les responsables ce jour-là, leur poser des questions pour à votre tour connaître les besoins. Et les responsables apprendront à mieux vous connaître pour discerner au mieux dans quel domaine et de quelle manière vous essayez au service mutuel. Et je parle bien d'essayer. Parce que bon, dans notre texte, ils discernent d'une manière visiblement parfaite, ils choisissent pile le bon service pour les bonnes personnes. Mais bien souvent, ça ne marche pas comme ça du premier coup. On essaye, ça fonctionne souvent moyen quand on débute. Je ne vous ferai jamais entendre ma première prédication, c'est une catastrophe. On essaye, ça fonctionne plus ou moins bien, alors on s'améliore. On travaille, on réessaye, on nous aide, on nous accompagne, on nous forme. Ou alors, si ça ne convient vraiment pas, eh bien, on est orienté, encouragé vers autre chose qui nous conviendra mieux. Dans le service mutuel, il ne faut surtout pas avoir peur d'une notion souvent omniprésente de nos jours, un peu terrible, l'échec. Il n'y a jamais d'échec dans le service mutuel. Il y a simplement des essais, du discernement. Et le discernement, ça se fait aussi en essayant, par la pratique. Il n'y aura jamais d'échec. Il y aura simplement des essais pour pouvoir discerner de mieux en mieux et trouver ce à quoi Dieu appelle chacun et chacune de ses disciples. Ce sera le rôle des responsables, notamment, qui vous accompagneront en cela. Alors, pour prendre un exemple, on a bien du concret, eh bien je vais prendre un exemple. Eh bien, si avec, on en avait parlé pas mal dimanche dernier, si avec les responsables de l'enseignement des enfants, vous discernez que, oui, ça pourrait coller pour vous. Ils vous balanceront pas tout d'un coup, tout seul, en face des enfants, en vous disant, allez-y, enseignez-les, au revoir, on se revoit dans 3 quarts d'heure. Vous aurez l'occasion, tout d'abord, d'observer, pour mieux vous rendre compte de ce que cela signifie. Puis, si ça vous va, eh bien, ils vous aideront à essayer, peut-être, à vous améliorer au besoin. Quand je repense encore à ma première prédication, la vache. Et si ensemble, avec eux, vous discernez que finalement ce n'est pas à ça que Dieu vous appelle, eh bien on continuera simplement le discernement, avec vous, vers un autre service, avec d'autres responsables. Ce ne sera pas un échec, mais c'est une recherche à laquelle il faut rester ouvert toute sa vie. Parce que je le rappelle, une communauté change et nous changeons également. C'est pourquoi notre appel peut changer aussi. Rappelez-vous du problème de départ dans notre texte. Cette communauté qui a grandi. Amen, merci Seigneur, cette communauté a grandi. On ne va pas se plaindre des problèmes parce qu'elle grandit, mais des problèmes arrivent. Parce que la communauté change, les disciples changent, les besoins changent. Alors ce discernement ensemble doit être un désir permanent, paisible, motivés simplement par notre désir de suivre l'exemple du Christ afin de lui ressembler et de le rendre visible constamment dans ce monde. Alors j'ai dit qu'on allait faire ça au week-end de rentrée d'église, mais on ne sera pas tous là ce jour-là. Rassurez-vous, ne vous inquiétez pas, on va aussi travailler à rendre mieux visibles les responsables en fait, au quotidien, que vous puissiez savoir qui sont ces responsables d'activité, pour que vous puissiez aller les questionner, les rencontrer quand vous le voudrez. Et que tous nos membres puissent être encouragés à participer au service mutuel. Pour conclure, j'aimerais simplement vous rappeler encore ce qui doit rester notre but, le cœur de notre démarche dans le service mutuel. Ce n'est pas simplement un épanouissement personnel, c'est simplement Dieu, sa gloire, son règne et sa volonté pour nous. Dieu veut nous rendre semblables à son Fils par son Saint-Esprit. C'est son projet pour nous, sa volonté pour nous, afin de pouvoir même aujourd'hui encore rendre visible le Christ dans ce monde à travers son Église. Et qu'alors par notre amour visible, concret, le monde puisse voir et comprendre quel est l'immense amour que Dieu a pour tous les humains. Être serviteur de Dieu, être serviteur les uns des autres, être serviteur de l'Église du Christ, ça devrait être une motivation extrêmement forte pour tous les croyants. Parce que c'est ce que Dieu désire pour nous, et c'est l'exemple qu'il nous a montré en se faisant lui-même notre serviteur en toutes choses. C'est donc ce à quoi nous voulons travailler ensemble en ce début d'année. Et je finirai alors par rappeler simplement le dernier verset de notre passage, qui contient un encouragement fabuleux dans ce défi peut-être du service mutuel. Voici les fruits que Dieu a produits dans l'église de Jérusalem par le service mutuel des disciples. La parole de Dieu se répandait toujours plus et le nombre des disciples s'accroissait beaucoup. Alors que le Seigneur bénisse de la même manière notre communauté, mais également toutes les églises de notre ville, d'Angoulême, de ses environs, où nous voulons témoigner en faisant grandir notamment notre cœur de serviteur, notre cœur de servante. Amen. Amen. Et j'aimerais vous proposer bien d'exprimer à Dieu tout simplement notre désir d'être rendu semblable à son Fils par l'œuvre du Saint-Esprit, en chantant le cantique qui dit ceci: « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. »
Yeah. Merci Jeff. Merci Cédric au piano ce matin, Raphaël à la flûte et Judith à la voix. Il y a des occasions de se retrouver cette semaine avec les annonces. Alors le 18, la chambre haute chez les Lefebvre, chez Cédric et Christelle, au Grand Pontour, impasse du gazomètre. Le 19, il y a le groupe des dames de 9h30 à 11h. C'est ici, il me semble. Et le 19 aussi, il y a un petit événement au Mégarama à Gara. Alors, je ne sais pas si quelqu'un est au courant. Pour expliquer exactement comment ça se passe, c'est la projection d'un film qui s'appelle Interview avec Dieu. Qui est au courant ? Ah, très. Moi aussi, j'ai reçu un mail ce matin. Mais c'était sur le planning de l'église, alors je pensais que quelqu'un était au courant. C'est un film chrétien avec l'occasion de discuter après sur l'évangile et sur Dieu et l'occasion d'inviter les gens à venir soit à son église ou à d'autres lieux de culte près de chez eux. C'est le 19, de 19h à 21h, au Mégarama à Gara. Et le dimanche suivant, le 22, à Ruffec, au cinéma Le Family, de 16h30 à 18h30. Le 21, il y a l'atelier culte le samedi matin, de 9h30 à 11h30, avec Jeff, ici. Et le 19 aussi, j'ai sauté, le 19, le mercredi 19, il y a le groupe de Maison Est, qui se réunit aussi le soir de 20h à 22h. Voilà. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Flyer d'inscription pour ? Ah, il y a le flyer d'inscription qui sont arrivés au fond de l'église pour le week-end d'église au mois d'octobre. C'est le week-end du 5 et du 6 octobre à Triac-Lautré, c'est à côté de Jarnac. C'est très très sympa. Ça va être très chouette. Et très bon. Il y aura à manger, mais aussi, voilà. On va finir avec... je vous souhaite une bonne semaine. Alors, Hébreux, chapitre 13, verset 15, on peut lire, « Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. » C'est une promesse. Jésus est en présence de Dieu, il œuvre pour nous. Et c'est une promesse, son esprit est en nous. Donc, n'hésitons pas à ouvrir nos lèvres. Ne laissons pas simplement les lèvres des cloches sonner, mais... Parlons aussi. Bonne semaine et bon dimanche.